CO2, mon amour, avec ISTA. La planète déborde d'énergie. La maîtriser, c'est notre métier. Retrouvons les éco-gestes sur ISTA.fr.
Vous voyez, des touristes dans Paris l'autre jour, des gens énormes. Et ce sont des téléspectateurs.
CO2, mon amour.
Voilà une ethnie qui est née. Il y aura des gens minces qui seront sur le petit écran parce qu'ils bougent. Il va y avoir, dans les 50 ans à venir, des gens de plus en plus gros qui mangeront de plus en plus de pop-corn.
Avec Denis Chessou.
Et qui éclateront un jour pendant une série d'un feuilleton pour adolescents qui passera 18 heures et qui nous fait tomber en larmes.
Sur France Inter.
C'est formidable. Merci à vous, cher Jean Rochefort, que l'on va retrouver pendant une bonne vingtaine de minutes dans cette émission. Bonjour à toutes et à tous. Heureux de vous accueillir dans ce magazine de nature et d'environnement, CO2 Mon Amour, l'émission qui rapproche les hommes en nous rapprochant de la nature, avec Julien Michel et Vincent Godard à la technique, et assisté de Camille Blanès et Xavier Bessugia qui réalise l'émission. Oh tiens, on dirait Philippe Noirel à qui l'accueille.
Mon bon Jean, te voilà à toi. Ah, remarque bien, j'étais pas pressé de te voir arriver, tu sais. Ah, puisque t'es monté avec, mets ton cheval de lumière à côté du mien. Mais on ira combattre contre les moulins à vent ensemble. Hein? Elle est pas belle, la vie au paradis?
Alors la terre continuera de tourner, ses chevaux de galoper, les gens de s'aimer ou de s'étriper, c'est selon les saisons, les hormones, les passions. L'automne s'est fait tout doux, dites-donc. Il s'est enveloppé de câlins pour nous. Réchauffement ou pas, on s'en fiche, profitons. On a tous besoin de se lever dans les bras de la mi-octobre, et puis c'est tout. Car entre les défilés dans la rue, les hargnes qui n'en finissent pas, les inondations au Vietnam, les tremblements de terre au Mexique, les incendies de Californie, les innombrables injures faites à la planète et aussi faites aux femmes, aussi bien qu'à la raison humaine, eh bien ce petit souffle chaud des langueurs de l'automne pose une respiration délicieuse sur nos âmes chiffonnées. Sur un tapis de mousse ou d'herbe rousse, allongez-vous au flanc d'une colline plein sud, en lisière des forêts qui étirent leurs branches, vous savez, avant le grand sommeil. Regardez voltiger les derniers papillons, les migrateurs qui s'attardent, comme à regret de quitter nos cieux, avant d'affronter les torpeurs nourricières d'une Afrique que tant d'autres fuient. Alors le vent du soir si doux, une fin de lune à frange des nuages, à la frange des nuages, des silhouettes qui cancanent au miroir, sur le miroir des plans d'eau, ah, bah ouais, ce monde est quand même très beau. Et en indien déguisé ou non, merci octobre, merci à ce petit bout d'été. Alors, une petite page d'actualité, donc avant de retrouver Jean Rochefort, bonjour à vous Frédéric Danhé.
Bonjour Denis Chessou.
Alors cette semaine, donc c'était le matin, c'était au micro de Léa Salamé, on avait retrouvé donc Nicolas Hulot qui nous parle des sols.
Je veux lutter contre l'artificialisation des sols, qui est une plaie, qui est un fléau. Lutter contre cette gourmandise qu'on a à sacrifier des terres agricoles, pas toujours d'une manière justifiée. Donc on est en train de réfléchir à une stratégie.
Est-ce qu'une taxe béton, ça pourrait être une option?
On peut penser à l'incitatif et du dissuasif. D'ailleurs, dans ma discussion que j'ai eue hier soir avec le président, je pense que sur la fiscalité écologique, il faut qu'on ait un dispositif beaucoup plus fin que ce qu'on a. Il faut de l'incitatif, il faut du dissuasif et il faut du progressif. Il y aura probablement un instrument. Mais on est en train d'y travailler.
Donc vous ne confirmez pas cette taxe béton?
Je ne confirme pas en l'état, parce que ce que je confirme, c'est qu'on va mettre en place un dispositif et qu'effectivement, si la France veut avoir notamment une souveraineté en matière alimentaire, il faut qu'elle conserve suffisamment de terres agricoles pour pouvoir acquérir cette souveraineté.
Alors aujourd'hui, 28 millions de terres agricoles, 28 millions d'hectares, pardon, de terres agricoles, soit 51% du territoire. Les espaces artificialisés, donc c'est un peu plus de 5 millions, c'est 9,3% du territoire. Les espaces naturels, c'est plus de 22 millions, 39% donc du territoire. Frédéric Danhé, alors oui, taxe peut-être. Alors, bon, tout ceci est à l'étude, c'est pas fait. Je pense que va y avoir plein de navettes et,
oui.
Non, c'est pas sorti quand même complètement. Non. Mais en tout cas, c'est bien d'en prendre évidemment conscience. Hulot l'avait fait déjà bien avant d'être ministre. Parfois, Il peut y avoir un effet pervers.
Vous pouvez avoir des promoteurs, des élus qui se disent on va payer la taxe, comme ça on pourrait bétonner. Donc il faut faire attention. Il y a d'autres outils qui existent qui sont mal appliqués dans le cadre des plans de planification et d'urbanisme. En fait, il faudrait simplement, c'est ce que réclame tout le monde, hein, c'est qu'à l'échelle nationale, on fasse une cartographie très précise des sols dont la qualité agronomique devrait être conservée. C'est-à-dire, on devrait faire une cartographie des sols intouchables, rendus intouchables par la loi. C'est-à-dire que là, on ne construit pas tellement la valeur agronomique de ces sols est importante. Et ça pourrait très, très bien bien donc se cartographier à l'échelle nationale et puis se décider à une échelle locale, à une échelle de l'agglomération et pas à l'échelle des mairies.
Alors les états généraux de l'alimentation, oui. Donc première partie vient de se terminer, donc c'était sur les prix, on l'a bien compris, sur le mode de fonctionnement, qui va toucher, qui va pas toucher. qu'est-ce que l'on peut dire donc sur ce thème?
Si vraiment ça se met en place, c'est une révolution parce qu'on inverse complètement la formation des prix. On part de l'agriculteur, on part de la production, des prix de production. Et ben Emmanuel Macron se contredit lui-même, hein, du coup, parce qu'il avait été rapporteur de la commission Attali.
Il y a 9 ans à peu près.
Il y a 9 ans, qui avait inspiré la loi de modernisation de l'économie de 2008, qu'à l'époque les agriculteurs appelaient la loi Leclerc-Michel-Édouard, pour vous dire à qui ça a profité.
Ah oui,
cette
d'accord.
loi avait instauré le principe de liberté tarifaire et de négociation, qui effectivement a largement profité à la grande distribution, entraînée par Michel-Édouard Leclerc dans une course au prix le plus bas. Et là, c'est une remise en cause complète de ce schéma. Hein. C'est imposer un prix de base, voilà, par filière, c'est-à-dire faire un peu ce que font les magasins spécialisés avec le bio, ce que font d'ailleurs certaines grandes enseignes comme Intermarché et Système U avec les PME territoriales qui sont autour des supermarchés, des hypermarchés, c'est-à-dire partir du prix de base, du prix de production du producteur et puis surtout le rassurer dans son exercice par une contractualisation, ça a aussi été annoncé par le président de la République, une contractualisation, c'est-à-dire je t'assure que mes prix d'achat durant 3, 4 à 5 ans ne seront jamais plus bas que le prix de base. Il réclame aussi une transparence dans les coopératives, c'est un peu technique, mais c'est aussi un gros problème pour les agriculteurs. Et une structuration par filière, filière aux viandes bovines, filière, etc.
Et il y a quand même une trouille aussi de la part de Leclerc et des autres, c'est Amazon.
C'est ce qui explique en grande partie, je pense, la perte de sang-froid de Michel-Édouard Leclerc lors des discussions, c'est qu'aujourd'hui, le modèle économique de la grande distribution s'effondre. Pourquoi ? Parce qu'on ne peut plus aller plus bas que les prix les plus bas, parce que les clients ont repris leur assiette en main, privilégient plutôt les labels rouges, les AOP et le bio, et puis Amazon est arrivé. Et aux États-Unis, Amazon, qui a déjà tué toute librairie, est en train de tuer la grande distribution, en particulier Walmart. La grande peur de la grande distribution, c'est qu'Amazon distribue aujourd'hui justement ses produits à haute valeur ajoutée, comme le bio et les labels rouges, et surtout qu'Amazon, finalement, soit le petit coup de boost pour les filières courtes. On pourrait demain envisager qu'Amazon distribue directement entre le consommateur et le producteur sans passer par la grande distribution. C'est la grande peur du secteur.
Donc ça, c'était la version numéro 1, la version numéro 2, enfin pas la version, ça va être l'acte 2, pardonnez-moi, pour ces états généraux de l'alimentation. On va parler donc d'environnement et de sanitaire, ça ce serait, donc bien sûr on va suivre aussi ce dossier. Et c'est vrai que pour Hulot, c'est quand même un marqueur fort, il y aura ça et Notre-Dame-des-Landes pour voir quels vont être le résultat des courses après.
Ça c'est sûr, mais là il a pris le bon bout. De toute façon, un agriculteur qui n'a pas les moyens ne peut pas travailler correctement. Il faut juste pour les auditeurs, rapidement, pour un euro que vous achetez, vous achetez un produit, pardon, un euro en grande distribution avec 6 centimes en moyenne qui reviennent à l'agriculteur.
Le problème, 1 euro, 6 centimes, 6%,
voilà, pas plus.
Voilà. Très bien. Et où vont les marges? Alors, on va parler maintenant des perturbateurs endocriniens. Donc, ça veut dire que nous allons convoquer les bisphénols A, les parabénéphtalates, qui sont un peu partout, donc on le sait, ce sont des amis à nous tous. Ils sont quand même plus de 8000 aujourd'hui parce qu'il y a une initiative du réseau Environnement Santé qui était à l'origine des premières rencontres européennes des villes et territoires sans perturbateurs endocriniens. Alors, nous allons écouter André Sicolella, qui est au micro d'Hélène Chevalier dans l'excellente mission matinale d'Hélène Roussel. Et donc, le but de tout cela, c'est de créer un réseau et une charte pour les villes qui souhaitent s'engager contre les perturbateurs endocriniens.
Une charte en 5 points pour que les villes et les territoires s'engagent sur une démarche. Cette démarche consiste à agir par le levier économique. Quand Paris demande à ses fournisseurs de produits de nettoyage, d'avoir des produits de nettoyage sans alkylphénol, qui est une grande famille de perturbateurs endocriniens, c'est la principale source de contamination de l'eau. Dans 100% des prélèvements dans l'eau, on va trouver des alkylphénols, tout à fait anormal. Et donc c'est ça la démarche que nous souhaitons impulser à travers cette rencontre des villes européennes. C'est déjà que les capitales, elles ont un poids économique, ces capitales. Elles agissent sur la commande publique. Quand les fournisseurs ont une demande, quand il y a un marché important comme celui d'une capitale, eh bien ils s'adaptent. Voilà, ils trouvent les produits de remplacement. On sait faire des produits de nettoyage sans alkylphénol, eh bien faisons-le. Il n'y a aucune raison que ce soit limité à Paris. Si les produits existent, en plus, vous voyez, le transfert doit se faire.
André Cicolella, donc au micro d'Hélène Chevalier. Et là, c'est vrai qu'on se dit, on va prendre les villes, une fois de plus, vont prendre les choses un petit peu en main, parce qu'il y a un tel souk, disons-le, sur les définitions des perturbateurs endocriniens de l'Union européenne, qu'on ne va peut-être pas attendre la législation, quoi. C'est un peu ça l'idée.
C'est assez amusant, on ne se rend pas compte de la révolution que c'est. On va vers une dévolution de beaucoup des pouvoirs de l'État vers les agglomérations, vers les métropoles, à la fois pour l'alimentation et derrière l'alimentation, parce que le plus gros client des cantines scolaires, par exemple, sera les métropoles. Les métropoles imposeront l'interdiction purement et simplement des pesticides sur leur territoire.
Alors, vous avez déjà eu donc une crèche à Limoges qui bannit ses perturbateurs. À Guéret, pareil. Grande-Synthe, très en avance, avec Damien Carême, qui est son maire, qui est très sensibilisé, a créé un atelier auprès des habitants, donc pour en parler avec eux. Le maire de Stockholm a réuni aussi les coiffeurs de sa ville, pour changer les produits aussi. Voilà, c'est en train de bouger.
Mais faut jamais oublier que les perturbateurs endocriniens, c'est pas que les pesticides, c'est les produits cosmétiques, c'est les produits ménagers, il y en a partout dans notre maison.
On se retrouve la semaine prochaine, Frédéric.
Avec plaisir.
Tiens.
CO2 Mon Amour avec Denis Chessoux sur France Inter.
Il pleut des cordes sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer, le ciel est bleu pourtant. Tu regardes vers le nord, avis de grand frère à la fenêtre. Mer 5 à 7, forcissant dans ta tête, des crêtes d'écume au plafond, un orage dans le salon, dans la salle de bain du bar, détends-toi. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'anticyclone des Açores est sur nous, la main de Dieu est sur nous, les comètes géantes arrivent, le canapé dérive, dans les muséums d'histoire naturelle, les os des dinosaures tremblent, les planètes s'entrechoquent. Et tu n'as encore rien vu, et tu n'as encore rien vu. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tout le temps, de tout le temps, de tout le temps. Sur le balcon, le vent s'engouffre dans la maison, les volets claquent vers la mer. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. C'est l'année la plus chaude de tous les temps, de tous les temps, de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps, l'année la plus chaude de tous les temps. L'année la plus chaude de tous les temps.
Voilà le réchauffement climatique qui s'invite aussi dans les chansons, Raphaël, qui devrait être, on n'a pas encore la date précise, mais rédacteur en chef de cette émission, parce qu'il s'intéresse évidemment, au-delà de cette chanson, à ces problèmes environnementaux.
Le végétal, c'est un peu une joie de ma grande maturité. Je l'ai un peu ignoré dans une autre partie de ma vie, mais j'ai remarqué, mais pas seulement chez moi, que les hommes vieillissants plantaient ou regardaient les arbres.
Peut-être un besoin d'enracinement.
C'est possible. Le toucher de l'écorce et la main de l'homme, la vieille main du vieil homme, ça fait des belles photos.
Un timbre incroyable chez un homme un peu doux timbré aussi, le disait lui-même, gentillesse, profondeur, élégance permanente même dans la dépression.
Après vous, Denis, j'ai rendez-vous chez le bon psychiatre. C'est comme les chevaux, faut bien les nourrir, ces bêtes-là, me disait-il.
Donc il avait une dérision folle, on le sait, sur lui-même, les autres, et aussi, c'est un truc qui est aussi rare, si vous voulez, que de bouffer une pomme sans pesticides aujourd'hui. Et nous sommes dans la partie sud de l'Île-de-France, nous sommes dans les Yvelines, dans le 7-8, il était voisin de Michel Tournier à Choiseul, mais lui, il était à Aufargis, en lisière de la forêt de Rambouillet, grande pourvoyeuse de cerfs, de biches, de sangliers, pour le plaisir des carrossiers, me disait-il. Et oui, pour Jean Rochefort, il fallait un peu de place. Alors non pas que notre comédien aux longues jambes fût très épais, non, mais il y avait sa passion hennissante de sa vie. Alors pas de ces chevaux affublés de noms ridicules qui font le bonheur des turfistes, non, des chevaux qui se destinent à sauter les barrières lors de concours internationaux. Donc nous sommes sur un sol sablonneux, les chênes, les châtaigniers, les bouleaux nous saluent gentiment. Rochefort retire les cailloux des chemins de manière obsessionnelle pour éviter aux chevaux de les heurter. Et il a toujours eu besoin de ce rapport à la nature. Ça m'apaise. Il aimait beaucoup écouter aussi Jean-Marie Pelt. Cet homme chante la vie, Denis. Et c'était toujours une étincelle de bonheur d'être que de le rencontrer. On était rassuré, lui qui n'était pas tant que ça en fait. Le soleil était là, c'était en 2007, au mois de septembre. Et nous aimions parfois comparer les mérites de nos montures respectives. La sienne, jument alezan, poil roux brun. La mienne, bicyclette carbone, dérailleur et frein italien. Alors fermez les yeux et suivez-nous pour attraper vous aussi cette petite étincelle.
Bonjour Denis Chessou, bonjour. Je regrette pour une fois que ça ne soit pas de la télévision.
Oui.
C'est la seule fois que je le regretterai. Vous êtes en tenue de cycliste.
Oui, absolument. Vous n'êtes pas complètement en tenue équestre, mais pourtant on va parler de chevaux sûrement à un moment ou à un autre. Mais on va quand même poser un peu le décor. Alors nous sommes dans le département des Yvelines, on n'est pas très loin de la forêt de Rambouillet. À quoi ressemble ce lieu où nous sommes?
Eh bien, étrangement, on pourrait le qualifier de montagneux. C'est un jardin. Le silence, oui. Un peu de vent aujourd'hui, les grandes herbes qui bougent, des chiens alanguis qui nous suivent, et enfin, du soleil. Je m'efforce de faire tous les jours deux fois le tour de cet endroit, une fois le matin, une fois le soir, du pas le plus vif possible.
Ben oui.
Mais je ne demande aucun ricanement de la part des auditeurs, il est très pentu. À certains endroits, donc il nécessite un vrai effort pour un homme mûr.
Cette propriété dans laquelle vous êtes, déjà depuis environ une petite vingtaine d'années, elle a plus de 20 ans, hein, Jean Rochefort.
Ah oui, 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 bien sûr, elle a de l'arthrose. Et oui, alors, dans les archives de la région, le jardin est répertorié depuis 1212. Et Madame Pépin Lebref, mère, y aurait vécu. Et je me plais de temps en temps, dans le silence, à imaginer Madame Pépin. Le maire criant « Pépin, le bref, à table
oui. !»
Hein oui. Qu'est-ce qu'on mange oui. Du manant.
Il y a quand même ce rapport au monde, par rapport à la terre.
qui est le vôtre. C'est-à-dire que vous avez maintenant vos interrogations aussi face à ce qui est bousculé quoi, en ce moment, parce qu'on n'a pas que des mauvaises nouvelles à raconter en matière d'environnement, et en même temps on a aussi de l'espoir. Mais qu'est-ce qui vous interroge quoi, aujourd'hui dans ce monde qui bouge ?
Nous ne devons pas surtout être donneurs de leçons, nous ne devons pas être ennuyeux.
Tout à fait.
Et en même temps, tout en ayant confiance, il faut bien dire que un être humain un peu lucide, ayant passé quelques décennies déjà sur la planète, se rend compte que c'est un autre monde que celui que cet homme-là a connu enfant. Il existe maintenant sur la planète des poulets de pauvres et des poulets de riches.
Exact. On peut dire ça aussi, des cochons de pauvres et des cochons de riches. Oui.
Et ça n'est pas la même espèce. Ce sont des animaux totalement différents. Et la poule au pot tous les dimanches, notre roi serait bien surpris s'il bouffait celui de l'ouvrier aujourd'hui.
Allez. Non, mais ça veut dire que la consommation a beaucoup changé et que maintenant on sort effectivement des poulets qui n'en sont plus pour pas grand-chose, quoi.
L'image du poulet bipède trottant allègrement dans l'herbe n'est pas valable pour le poulet de pauvre, puisque j'ai fait moi-même cette expérience. J'en ai sauvé deux des batteries infernales que j'ai nourries tous les jours. Ils étaient incapables de se déplacer.
Là, vraiment, vous prenez fait et cause par rapport donc au bien-être animal. Les animaux d'élevage ne sont pas forcément considérés comme des animaux. Hein, c'est simplement, ce sont des produits que l'on élève et puis après que l'on vend. Mmh. Et c'est tout ça aussi que vous mettez un petit peu en cause.
Oui, oui, bien évidemment. Le respect du vivant, quel qu'il soit, me semble nécessaire. Il est partout oublié. Qu'est-ce qui m'effraie aussi? J'espère que nous ne sommes pas ennuyeux, mon cher Denis, mais je m'emporte. Je pensais tout à l'heure, et je dis aux auditeurs, faisons attention. Il me semble qu'une autre ethnie est en train de venir au monde. Je voyais des touristes dans Paris l'autre jour, des gens énormes que je n'avais jamais vus dans mon enfance. Ça, je le promets. Un obèse était quelqu'un qu'on regardait en ricanant, mais ils étaient assez rares, il y en a de plus en plus. Et ce sont des téléspectateurs. Et voilà une ethnie qui est née. Il y aura les gens minces qui seront sur le petit écran parce qu'ils bougent. Il va y avoir, dans les 50 ans à venir, des gens de plus en plus gros qui mangeront de plus en plus de pop-corn et qui éclateront un jour pendant une série d'un feuilleton pour adolescent qui passera 18 heures et qui nous fait tomber en larmes.
Ça suffit ! Vous avez assez bouffé ! Il y a tout de même des limites ! Allez hop ! Remballez !
Oh ! Vous faites du mal, Michel !
Ils vont se multiplier ! Faut leur enlever la garde de leurs enfants ! Tiens mieux ! On va les stériliser !
Oui.
Tu crois que c'est ça, mon public ?
Non.
Français !
On va quand même présenter ce chien qui nous suit, parce qu'il a quand même aussi toute une histoire. C'est un lévrier.
Alors, il avait un nom extrêmement compliqué, un nom espagnol, et je l'ai appelé Pépère, parce que aucun nom ne peut lui aller plus mal, étant donné qu'on voit son cœur battre sous la peau. C'est un lévrier maigre. Oui. Pourquoi est-il là ? Il se trouve que les chasseurs espagnols qui chassent ne pensent pas que ce sont des animaux de compagnie, et à leur travail fini, où ils sont, n'étant peut-être pas capables de courir avec ses vies, je n'en sais rien, ils les suppriment de la planète en les torturant.
Ah, c'est-à-dire, voilà, ce sont des animaux donc, qui ont été dressés pour la chasse,
voilà.
Et une fois qu'on les a utilisés et bien pressurés, on les balance, quoi, en gros.
Oui, mais celui-ci a 2 ans, donc je pense qu'il n'a pas eu le temps de faire de réelles preuves, en tout cas. Il est arrivé avec quelques brûlures de cigarettes marquées sur sa queue. Pardon, je viens d'attraper une tique qui est vraiment le cauchemar. Alors là, je tue la tique, oui, hein, pardon, ami de la SPA, je suis désolé.
Là, on est en train de marcher sur un petit parterre de glands, ce qui veut dire qu'a priori, faute d'avoir... Oh, si vous devez avoir des sangliers, peut-être dans le coin qui viennent,
ah,
non?
Ah oui. Alors, de temps en temps, tous les principes que nous venons de mettre à jour sur le respect de l'animal, de temps en temps, m'échappent et je retrouve mon accent breton d'origine. Oui. Sacré nom de Dieu, gentil, j'ai bien un coup de fusil. Parce que quand il me ravage tout comme ça, j'ai une sorte de haine épouvantable, mais qui dure deux jours ou trois jours, parce que c'est vrai qu'en plein hiver, quand ils n'ont plus grand-chose à nourrir, ils ravagent tout. Quoi.
Ils jouent les terrassiers.
Ils jouent les terrassiers. Et j'ai appris récemment, je ne savais pas pourquoi ils fouillaient le sol comme ça. Eh bien, c'est pour manger des vers de terre.
Ah, c'est ça. Oui.
Ah, vous le saviez, vous.
Oui, oui, oui. Ce sont des amoureux des lombrics, quoi, on va dire.
Voilà. Oui, oui, tout encore un bon titre.
Encore.
Les amoureux des lombrics.
Ah oui. Hein, on se garde, on le met
oui,
de côté.
Oui, on appelle Gallimard.
Ah non, c'est pas possible.
Hein, quoi?
Regarde-moi, c'est les cons.
Où ça, les cons?
Là! Tiens, arrête-toi. Je vais leur dire que c'est des cons. Ils doivent pas le savoir.
Mais foutez-leur la paix. Ils font de mal à personne.
Mais je m'en fous. C'est pas possible d'être aussi con.
Oh, 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 on est en République, s'ils veulent bouffer sur le bord de la route, c'est leur droit. Tout le monde ne peut pas aller au restaurant.
Mais je leur demande pas d'aller au restaurant. Mais je suis sûr qu'à 20 mètres de là, il y a un prix, de l'herbe et tout ce qu'il faut pour pique-niquer. Eh ben non, faut qu'ils s'installent au bord de la route. C'est des cons, je te dis.
Qu'est-ce qui vous plaît, je dirais, aujourd'hui, dans la sensibilisation à l'environnement, à l'écologie
Qu'est-ce qui fait que je suis troublé, c'est que je dis, en un mot, pour être bref, faisons attention. Essayons de trouver une solution à tout ça. Il y a une apocalypse possible. Je suis un pessimiste militant, je le reconnais. Ça va pas, ça va pas, ça va pas. J'ai une anecdote sur... une rencontre récente. Bon. Et l'autre jour, le hasard professionnel a voulu que je travaille dans un endroit qui est voué au nucléaire.
Oui.
Nous tirons là le samedi et dimanche parce que les bureaux sont libres, c'est immense.
Donc c'est le siège d'Areva.
Voilà. Et je suis tombé sur un jeune Marocain, ingénieur nucléaire. Et là, ce jeune homme, je lui dis... Mais les déchets nucléaires,
oui.
Bon Dieu. Alors il me dit, effectivement, nous travaillons sur un projet dans les 300 ans à venir qui va nous permettre d'organiser des convois de bennes qui transporteront nos déchets nucléaires sur le soleil.
C'est-à-dire que c'est un pari sur l'avenir, de toute façon.
Je suis réellement moins pessimiste. Ce jeune homme est habité... par l'espoir, et il sera peut-être Jeanne d'Arc, puisque si c'est lui qui trouve la solution, il va sauver la planète dans 500 ans. Sinon, on est tous foutus.
Ah
non, c'est un autre chien qui aboie, et alors je lui fais un signe pour lui dire que c'est nous, parce que c'est un animal assez impressionnant aussi.
Ah, tout à fait.
Et qui est bon gardien, qui est bonne gardienne, c'est une gardienne. Bébelle.
Ben voilà.
Ben regardez, elle vient au galop dans cette pente. C'est beau. Bébelle, viens.
Ça n'a pas de rapport avec votre copain Belmondo, ça.
Oui, si.
C'est, ah oui, d'accord. Bon, et donc il y a Bébelle et Pépère là qui.
Bébelle et Pépère, oui.
Bon, ils s'entendent, ça va.
Eh ben écoutez, ils s'entendent de temps en temps. Ils se foutent une petite branlée
pour
que chacun sache où est sa place dans la meute,
voilà.
À savoir moi le mâle dominant,
ah ben oui.
Bien que manquant de poils.
Et leur Bébelle, comme marque de chien, qu'est-ce que c'est?
Alors c'est un berger d'Anatolie,
ah oui.
Qui est un chien très pudique, toujours très discret, toujours à distance, et qui excrète à couvert.
Dans le Paris des Républiques, l'accordéon nostalgique a semé bien des musiques dont il reste des échos. Dans nos cœurs, il y a des rengaines dont les rimes incertaines se prenaient pour du Verlaine, du Bruant ou du
Victor Co.
Le chanteur des rues qui brame, à votre bon cœur, messieurs, dames, Paris sera toujours Paname, et tout ça ne vaut pas l'amour.
Lorsque les télés s'allument, pauvre fantôme des brumes, s'en revient succès posthume, nous hanter au fond des cours.
Et allez donc, envoie la ritournelle
de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles,
à chaque fois qu'on l'entend, on a les larmes aux yeux.
Paris, c'est plusieurs villages, et chacun a son visage, le 16e a son langage, et la bastoche a le sien.
Ronicos en argomuche, et Pantin se dit pantruche, mais ni le montant, mais ni le muche, et le temps n'y change rien.
Moi j'aime bien la place des fêtes, et les choses sont bien faites, pas loin du tabac buvette, y a l'église et la mairie.
Moi je rigole quand je pense à ceux qui partent en vacances en Bretagne ou en Provence.
Rien ne vaut l'heure de Paris. Et allez donc, envoie la ritournelle
de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles.
On se croirait au printemps et le ciel est toujours bleu.
On sait bien de par le monde que Paris c'est une blonde, et les visiteurs abondent, il en vient de tout pays.
La tour Eiffel les étonne, le musée Grévin les passionne, et la Seine enfin leur donne l'attrait de ses quais fleuris.
Dans la lumière irisée, ils s'en vont l'âme grisée, le long des Champs-Élysées, et comprennent que Paris
restera quoi qu'il advienne la capitale souveraine, la seule, l'unique et la reine, par le cœur et par l'esprit.
Et allez donc, envoie la ritournelle
de la chanson gnangnang et chauvine et vieux jeu.
Réveille un peu le piano à bretelles,
dans le genre exaltant on ne pourrait pas faire mieux.
Ça fait 25 ans, moi, que j'ai pas vu de campagne. Une jolie petite cabane, avec une forêt autour et des sentiers à plus savoir quoi en foutre. J'en manque de chlorophylle. Je suis obligé d'aller au Castorama, rayon jardinage, pour voir un petit peu de verdure. Mais ce qui me manque le plus, moi, c'est la fraîcheur. J'étouffe.
CO2, mon amour.
J'étouffe.
Sur France Inter.
Des chiens, oui, mais aussi des chevaux, bien sûr, avec Jean Rochefort. Je le soupçonne d'être parti, à mon avis, sur une licorne, donc toujours au sud de Paris, à 35-40 km, dans les Yvelines.
C'était jeudi, et bravo les questions de Marthe, je sortais mes bottes de cheval du sac où elles séjournaient depuis 1958, l'année du retour du général de Gaulle au pouvoir. Bien qu'il ne faille chercher aucune relation entre les deux affaires. Cet été-là, à l'île d'Oléron, et entraîné par des fanatiques, j'avais un peu pratiqué l'équitation, tentative qui s'était soldée par une rupture entre ce genre de bête et ma personne. Et Marthe ne manqua pas de me le faire observer.
On va aller fréquenter ces animaux. Là, je parle des chevaux. Que vous devez quand même, il y a, je ne sais pas combien d'années, mais au film Cartouche. Alors racontez-nous
voilà,
un petit peu.
Voilà, alors 1961. Moi, j'ai toujours aimé les chevaux, et puis il a fallu que je monte pour ce film Cartouche avec mon ami Belmondo, et j'ai eu un coup de foudre amoureux, très violent, même enfant. Je trouvais cet animal presque hors nature, tellement je le trouvais délicieusement sexué et harmonieux. Et après 50 ans de fréquentation quotidienne avec ces animaux-là, quand on les observe longtemps, le mystère n'est toujours pas percé. Quand un cheval est monté par un grand cavalier, le cheval donne à cet homme son cœur et sa confiance absolue. de cheval à emmagasiner qu'avec cet individu-là. Sur son dos, ça se passe toujours bien. À cet homme qui est sur son dos, de savoir ne jamais le trahir. Une des grandes joies de ma vie, un de mes grands souvenirs, je pars en forêt de Rambouillet, il y a très longtemps, avec une jument, qui est morte ici d'ailleurs, et nous partons, mon chien, dans la forêt de Rambouillet. La pluie tombe. Je ne connaissais pas très bien la forêt de Rambouillet. À cette époque, je venais de m'y installer. La pluie tombe sans arrêt et je suis perdu. Je regarde ma carte d'état-major et la pluie la détruit. C'est devenu un buvard sur lequel je ne lis plus rien. Donc notre errance est longue. Nous rentrons peut-être après 4 heures d'arrosage, le chien, le cheval et moi. Nous sommes trempés et nous sommes retrouvés dans un grand box avec 60 cm de belle paille dorée. Oui. Un bien-être énorme s'en est suivi. J'ai décellé mon cheval et de concert, le chien, le cheval et l'homme, nous urinâmes ensemble. Et ce fut un des moments, c'est un moment de ma vie où je crois qu'en reboutonnant ma braguette, j'avais les larmes aux yeux.
Je ne partis pas sur les chapeaux de roue afin que ma monture me ménage. Mais très vite, son caractère joyeux égara mes recherches. Et je pris conscience de ce que, si les femmes sont désirables, les chevaux sont roux et les forêts profondes.
Ah, alors là, on est de nouveau sur du plat. Et on voit vos bêtes. Ah, ben vous êtes...
On commence à les voir.
Ah, ben vous êtes repérés, là, il y a vos chevaux qui viennent vers vous.
Oui, vous savez, je les mets tous au monde, hein, moi-même.
Hein. Oui.
Je suis leur sage-femme.
Vous disent pas papa, mais c'est
mais
pas loin, quoi.
Elle le pense. Vous avez là une jument grise de 4 ans, oui, qui s'appelle Providence. Je leur donne des noms de films. Oui. Providence, c'est un film d'Alain Resnais. Et nous avons une autre, Alzane à crin lavé, qui s'appelle Alphaville, film de Jean-Luc Godard.
Vous n'en avez pas de chevaux qui s'appellent Crabe Tambour ou bien nous irons tous au paradis?
Alors, il y en a un qui s'appelle effectivement Crabe Tambour, ouais, et un autre qui s'appelle Cartouche.
On vous sent en permanence aussi relié. Quand on dit relié, c'est-à-dire que vous n'oubliez pas qu'il y a la terre, il y a la nature, il y a ce qu'on appelle la biodiversité, il y a les éléments, il y a le ciel, il y a tout ça.
Oui, bien sûr. Un petit souvenir d'enfant. Je suis donc... Breton, mon père est allé à la ville, il y a connu une réussite sociale de par son travail, il avait été premier du département pour le certificat d'études dont il tirait une grande gloire. Mmh. Et on allait voir ses anciens copains du collège de Dinan qui, eux, étaient restés dans la ruralité. Et j'ai le souvenir de cette ferme en terre battue, de cette grosse table de fermier, cette odeur de bouse de vache persistante, et c'était mon Chanel, quoi. Dès l'enfant, je humais cela avec un bonheur extraordinaire. Et mon père, lui demandant comment il a passé l'année à son vieux copain, lui répond « Oh, pas bien, ils ont tué mon veau, puis ils ont gonflé ma fille. » Il s'agissait de l'univers entier.
Ah là là, oui. Marquez vaut mieux ça que l'inverse.
Bien sûr. Voilà quelle a été mon enfance. Et j'en garde maintenant un souvenir plus que merveilleux. Ce sont mes racines. Et en fait, j'ai voulu recréer mes émotions de petit enfant. Je garde beaucoup de joie de vivre. Il y a du bénéfice aussi à tout à coup sentir ses racines sous ses pieds et que si on n'emmerde pas les autres avec son passé, ce que je comprends étonnamment qu'on puisse les emmerder, mais on peut soi-même, en circuit fermé, en jouir.
Ah si, 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 je suis le petit cantonnier. Ah ben si. Je suis pas le cantonnier des autoroutes ni des autostrades, moi je suis le petit cantonnier des chemins vicinaux. Vous m'avez peut-être vu appuyer sur ma faux, au creux de mon fossé. Il fait froid, je scie du bois, il pleut, je travaille pas. Quand j'ai fini ma journée, et tout de suite, quoi, 4h ou 4h30 à peu près. Il y en a, quand ils ont fini leur journée, ils prennent le métro. Moi, je rentre à pied en sifflotant. Et c'est bien rare si dans mon petit panier, il n'y a pas des noix, des amandes sauvages. Alors vous, les Parisiens, vous ne pouvez pas en manger. C'est bon pour les cantonniers.
Vous voyez, je m'arrête un moment. Là,
non, mais on s'arrête. Hein,
je ne veux pas perdre ma clientèle féminine
oui.
qui va se dire « Mais ce Rochefort s'essouffle trop vite non, maintenant. » Mais il y a un vrai raidillon.
Il y a un vrai raidillon.
Il y a un vrai raidillon.
C'est presque une arrivée de Tour de France au sommet de la côte. Là,
hein. Oui, oui. Et le sol, on n'est pas loin de Paris-Roubaix.
Puis, comme on n'a pas de produit, on ne pourra pas y arriver comme
on
ça.
On n'a rien du tout. On a bu une tasse de thé.
Bah, c'est ça.
D'ailleurs, il était tellement fort qu'on ne passerait pas la visite.
Oh bah, voilà.
Moi, j'avais bu très fort en prévision de ce parcours que nous allions faire.
Et alors, ce qui a changé quand même, Jean Rochefort, c'est qu'aujourd'hui, on a quand même conscience que nous vivons sur une planète, une seule. Avant de foutre le camp du côté du Soleil, de Mars ou de je ne sais où, il va quand même falloir faire avec. Hein, donc,
J'ai beaucoup de mal à penser aux autres planètes. Ça me procure chez moi une espèce de vertige, un chatouillis au niveau du cortex, que je ne m'explique pas, parce que le néant, j'ai appris récemment dans une parution qu'on venait de découvrir un trou, un cratère, pour faire simple, dans l'univers, dont le diamètre ferait plusieurs milliards d'années-lumière.
Oui, ce qui laisse songeur.
Alors là, j'ai le cortex qui me chatouille, vous voyez. Qu'est-ce que c'est que tout ça, alors? Qu'est-ce que c'est que tout ça? Déjà, le constat de la vie et de cette facilité qu'on a à la détruire me bouleverse et m'interpelle. Un grand professeur médecin l'autre jour m'a dit « Mon cher Rochefort, chaque jour est un miracle. Chaque jour est un miracle. Mm-hmm. » Pour que tout ça fonctionne, pour que nous marchions, pour que ce cheval fasse ça, il y a des millions de petites interférences, une machinerie prodigieuse qui me ferait foncer, peut-être par trouille à la fin, vers le spirituel. Il y a vraiment une interrogation là. Avant on disait « que fait l'homme sur la Terre ?» Maintenant on dit « que fait la vie sur la Terre ?» C'est quand même un progrès. Il y a la Lune que nous allons peut-être annexer. C'est peut-être notre chance de survie. Si nous continuons à nous reproduire dans ces proportions et si la faculté continue à nous faire vivre aussi longtemps, il va bien falloir trouver une solution. Sera-t-elle ailleurs? Je ne sais pas. On en parle, ils en parlent. Des coïdes de cosmonautes.
Ah oui.
En apesanteur.
En apesanteur.
Il paraît qu'il y a eu des tests déjà.
Oui,
et ça marche.
Écoutez, un grand merci, Jean Rochefort, pour votre accueil. Et puis, à très bientôt. Qu'est-ce que l'on peut vous souhaiter là? On a encore ce beau soleil, hein, cette douceur qui est ici.
Donc, ça va être une belle fin de soirée. Mais merci, Denis Chessou. C'était extrêmement agréable. J'ai passé un après-midi tout à fait délicieux en votre compagnie, avec l'espoir de ne pas avoir été totalement inutile. D'avoir été écouté en souriant, en s'amusant et peut-être en rêvant un petit peu d'un monde qui petit à petit va devenir autre chose.
Merci Jean Rochefort pour cette belle étincelle de vie. C'était donc il y a 10 ans, vous l'avez compris. Et là, et ben on va passer maintenant au répondeur 01 56 40 40 35.
Bonjour, c'est Fabienne. C'était merveilleux cette histoire, cette promenade avec Nicolas Vanier, excepté le moment où il nous a dit que qu'on était les seuls à détenir l'intelligence. Alors là, je suis tombée des nues. Comment peut-on connaître les animaux à ce point et ne pas leur reconnaître une intelligence qui fonctionne exactement comme la nôtre, en dehors du fait que la nôtre refuse l'intuition et que les animaux possèdent et l'une et l'autre? Merci, au revoir.
Je me permets d'appeler car demain, dimanche 15 octobre, est organisé un dimanche à la chasse en famille, en toute convivialité. J'avoue que je ne vois pas où est la convivialité dans la chasse et le fait d'enseigner le maniement des armes et le fait d'inculquer que retirer la vie d'un être vivant, entre guillemets, est normal, me dérange quelque peu. Voilà. Merci, au revoir.
Alors, je suis pas son défenseur à Vanier, simplement je pense qu'il voulait parler plutôt de conscience. C'est vrai qu'il a dit intelligence pour les hommes et pas pour les animaux. Enfin, il l'a pas dit pour les animaux, mais en tout cas, il a oublié de le dire. On est sur un registre différent lorsque l'on parle de conscience, évidemment, et d'intelligence, parce qu'il sait que les animaux ont leur forme d'intelligence. Donc,
Évidemment,
et
puis chacun voit midi à sa porte. C'est très anthropomorphique, hein, notre regard sur les animaux. Effectivement, il parlait de conscience, j'en suis certain. Les animaux ont une intelligence. Ils ont aussi une conscience d'eux-mêmes. Ils ont au moins conscience de leur environnement. Après, c'est un débat sans fin, très anthropomorphique, très moral. Ça sert à rien de rentrer dedans.
Voilà. Sinon, donc son film qui se passe en 1930, bah c'est vrai parce qu'on j'ai reçu quelques mails en disant bon, c'est un film qui est pro-chasse. Alors de toute façon, quand vous faites un film en 1930, vous avez plus de la moitié de la population qui a un flingue parce qu'on est une France rurale. Hein,
54% de la population française était rurale en 1931. J'ai les statistiques sous les yeux.
Et en revanche, que ce film sert à faire de l'entrisme de la part des fédérations de chasse pour effectivement récupérer les jeunes.
C'est lié pour rien.
Je ne sais pas parce que est-ce qu'il a donné sa caution ou pas, mais en tout cas, c'est quand même une réalité. Oui. Un autre message.
Bonjour. Si vous voulez changer le monde à coups de panier, la MAP des courgettes de Montluçon organise pour vous dimanche 15 octobre à Néry-les-Bains dans l'Allier la petite foire, une foire biologique, locale et en circuit court. Tous les renseignements sur www.amaplescourgettes.eu ou sur la page Facebook de La Petite Foire. Des producteurs, une conférence, de quoi boire et manger pour découvrir que notre alimentation est possible, facile et qu'elle peut tout changer. Alors, venez tous.
Avec Jean Rochefort, eh bien, nous étions dans le parc naturel régional de la vallée de Chevreuse. Et les parcs naturels régionaux fêtent leurs 50 ans. 51 parcs aujourd'hui, 3400 communes, 15% donc du territoire. Et donc le rôle, c'est de développer à la fois les activités humaines, défendre la ruralité, garder les paysages en bon état, la préservation de la biodiversité. Donc c'est pas toujours très très simple. Bonjour à vous, Michael Weber, vous qui êtes le nouveau président de ces parcs naturels régionaux.
Bonjour. Eh bien oui, c'est exactement ça. C'est la difficulté que nous pouvons avoir à montrer que la main de l'homme et la présence de l'homme n'est pas incompatible avec le maintien de la biodiversité, peut-être même parfois un retour de biodiversité. On a plein de territoires qui sont classés parcs naturels régionaux qui ont vu le retour des espèces parce que leur action l'a permis. Et aujourd'hui, ben, en effet, nous, la question qu'on se pose toujours, c'est de savoir quels sont les moyens, comment est-ce qu'on peut convaincre. Nous, on est dans la conviction en permanence plutôt que dans la contrainte. C'est vraiment de montrer à nos habitants, aux acteurs locaux, que l'on peut à la fois protéger les patrimoines naturels et parfois culturels qui y sont liés, et aussi avoir une action de développement local qui soit le plus doux possible, avec le moins d'impact possible sur les paysages et aussi sur la biodiversité de nos territoires.
Alors, quel exemple vous pouvez nous donner, s'il vous plaît? Parce que c'est vrai qu'on voit quand même une urbanisation qui est quand même gentiment galopante encore aujourd'hui en France, des panneaux publicitaires, d'autres vont vous dire « attention, on ne veut pas d'éoliennes », etc. Bon, quels exemples vous pouvez nous donner?
Alors, il est vrai que, par exemple, les panneaux publicitaires, nous, on bannit là, et c'est un des textes de loi, hein, nous bannissons les panneaux publicitaires dans les territoires classés parcs naturels régionaux, nous réglementons très fortement l'utilisation des véhicules à moteur, là aussi, sur les chemins de nos territoires, qui sont des territoires quand même vastes. Nous intervenons par exemple sur le parc des Vosges du Nord, sur la réintroduction du lynx, sur le maintien des populations de faucons pèlerins qui avaient totalement disparu du territoire, mais grâce à la privatisation, on peut dire, de certains rochers, on a pu avoir le maintien ou le retour des faucons pèlerins. D'autres parcs se sont lancés dans des citernes à incendie qui ne sont pas des citernes mais des mares qui permettent la rétention d'eau et qui donc ont un double rôle, à la fois se prémunir des incendies parfois, mais aussi de permettre un retour de la biodiversité avec des espèces de grenouilles et que sais-je d'autres, ou encore je pense au Monde Ardèche qui a fait toute une politique liée à la myrtille et donc au sous-bois ou aux lisières de forêt qui a permis le retour du grand tétras. Donc voilà toutes des actions qui effectivement montrent que l'on peut avoir une activité humaine tout en ayant un retour de la biodiversité ou un maintien de la biodiversité.
Alors avec la restriction, on va dire, des budgets dans tous les sens, comment on peut envisager aussi l'avenir? Je sais bien qu'il n'y a pas qu'une question simplement économique, mais quand même elle joue parce que derrière vous avez des emplois, des gens qui sont sur le terrain, qui sont donc engagés et salariés des différents parcs naturels.
Oui, c'est c'est effectivement aujourd'hui une inquiétude, c'est-à-dire qu'au-delà du discours et parfois des bonnes intentions, il faut que les moyens soient mis en œuvre. Or, on sait qu'il y a une fragilité de la part des régions, on sait aussi que l'État essaie de réduire sa participation financière. On a vu, nous on a réagi il y a quelque temps sur la ponction sur les agences de l'eau et sur d'autres éléments donc liés au financement de ces dispositifs, mais vraiment je crois qu'il faut avoir, et en tout cas nous le réclamons, une vraie cohérence entre le discours qui est celui de d'une vraie politique à l'attention de la biodiversité, d'une vraie politique pour réduire le réchauffement climatique et donc sur les économies d'énergie et les moyens qui sont à mettre en œuvre demain. Si l'on considère véritablement que cette politique-là est prioritaire sur le territoire français, il faut y mettre les moyens. Les parcs naturels régionaux ont des agents et une autre ingénierie de territoire qui investit sur la ruralité et notamment parce que en protection encore de nos milieux, de nos paysages. Et donc il faut vraiment que demain, eh bien, ces moyens soient en adéquation avec notre ambition partagée.
Michael Weber, en quoi en fait ces parcs sont des territoires d'expérimentation aujourd'hui ?
Je vais prendre l'exemple qui est le mien dans les parcs des Vosges du Nord. On a construit avec une intercommunalité le premier bâtiment en bois de structure de hêtre. C'est une première nationale. C'est de montrer que le hêtre n'est pas simplement du bois de moyenne valeur que l'on utilise pour se chauffer, mais qui peut aussi être utilisé sur de la construction bois et donc qui apporte une autre plus-value et un autre regard sur ce bois-là. Et je pense qu'il y a plein d'autres dispositifs. Tiens, je pense aussi à la Brière qui a montré que l'utilisation du roseau avec en redéveloppant une économie de proximité, eh bien, est tout à fait intéressante, notamment pour les toits de chaume.
Et d'ailleurs, dans votre mandat, vous insistez quand même très fortement sur la banalisation des paysages. Donc pour vous, c'est une des priorités de voir effectivement ce mitage que l'on voit un peu partout, du nord au sud, de l'est à l'ouest de la France. Et donc vous vous dites, au moins dans les parcs, faisons encore plus attention qu'ailleurs.
Je prends toujours un peu cette position qui parfois peut paraître un peu brutale. Tout le territoire français rural n'a pas vocation à être parc naturel régional demain. Il faut que les territoires d'exception le soient, qu'ils puissent tirer vers d'autres. Que, évidemment, on peut avoir de la transmission parfois sur des politiques que nous avons expérimentées à l'attention des intercommunalités. Mais que, en effet, il faut lutter contre cette banalisation des paysages parce que, pour plein de raisons, il y a aussi des raisons économiques et touristiques. Soyons honnêtes, si nos territoires sont attractifs aujourd'hui, c'est parce qu'il n'y a pas cette banalisation.
On a 85 millions de touristes qui viennent en France tous les ans. Donc.
Exactement. Cette lutte de la banalisation, le travail qu'on a mené sur les 50 dernières années a montré que, par exemple, sous les parcs naturels régionaux, on reste des territoires attractifs parce qu'on gagne en population, en réalité, et que proportionnellement aux autres territoires ruraux, eh bien, l'artificialisation est beaucoup plus maîtrisée et qu'il y a moins d'artificialisation des sols, moins d'extension urbaine que dans les autres territoires ruraux. Donc c'est bien la preuve que nous avons une action positive sur ces territoires.
Ce qui est toujours intéressant lorsque l'on voit effectivement ces nouveaux parcs, par exemple celui du Médoc, celui de l'Aubrac, celui de la Baie de Somme, et la quatrième, c'est donc le parc de la Sainte-Baume, c'est qu'on vise l'entité culturelle et géographique et non pas effectivement des découpages, on va dire, départementaux et régionaux.
D'abord, ce sont des parcs qui ne sont pas tout à fait à la fin du processus, mais qui, effectivement, dans l'année, le seront. Mais ce qui est intéressant, c'est que je crois que chaque auditeur peut situer le parc rien que par son titre et par la description que vous venez d'en faire.
Médoc, en fait, Aubrac, Sainte-Baume,
l'Aubrac et la Sainte-Baume, ou Picardie-Maritime avec la Baie de Somme. Et je crois que c'est ça, c'est de dire que la cohérence est une cohérence paysagère. Ce n'est pas une cohérence qui soit simplement administrative. On ne tient pas nécessairement compte ni des intercommunalités, ni des départements, ni des régions, puisqu'on peut être interrégional.
Ça rappelle un petit peu la notion de pays qui avait été un peu lancée, qui n'a pas forcément débouché sur grand-chose, mais peu importe, c'est ça, quoi. On parle des pays. Quoi.
C'est un petit peu ça, et je crois que c'est bon d'en parler, parce que les pays ont effectivement été nombreux en France. Ils ont initié une démarche qu'on souhaite, nous, aujourd'hui, reprendre, et sur laquelle on s'interroge, c'est celle de la gouvernance en particulier, et c'est de savoir, c'est un des défis pour les années à venir, c'est de savoir comment est-ce que nos habitants pourront contribuer demain à la réflexion. Je crois qu'on entre dans une période où il y a cette volonté aussi d'une démocratie contributive.
Ah bah sacrément, oui, de la part des citoyens. Oui.
Exactement, où les citoyens veulent être acteurs, pas forcément décideurs, mais être acteurs et contribuer à la réflexion, peut-être d'une certaine forme de décision. Et je crois que nous, en tout cas, on souhaite aller, et c'est un peu ce qu'on a aussi dit hier à l'attention du ministre, au-delà de ce qu'avaient initié les pays avec une vraie démocratie contributive qu'on est prêt à expérimenter sur nos territoires.
Merci à vous, Michael Weber. Et puis en tout cas, donc, bon anniversaire pour ces 50 ans.
Merci, Denis Chessou. À bientôt.
Et Bercy Village, donc à Paris, accueille jusqu'au 15 octobre Destination Parc, qui regroupe les 51 parcs, en attendant les 4 autres. Grand merci donc à toute l'équipe, à savoir Camille Blanès, qui était notre assistante. Nous avons donc aussi à la technique Julien Michel et Vincent Godard, Xavier Pestugia, qui d'ailleurs à l'époque aussi avait réalisé donc le reportage avec Jean Rochefort. Merci à Muriel Pérez pour sa programmation, à Anne Gouzon, qui nourrit les sites de CO2 Mon Amour. La semaine prochaine, prochaine. Bah, écoutez, on va recevoir Jocelyne Porcher avec un sujet tout à fait intéressant. Encore carnivore demain.
Ah ouais,
intéressant. Et puis aussi, vous serez là, Frédéric, parce que là, on mettra en avant votre nouvel ouvrage.
L'assiette est dans le pré, me semble-t-il.
C'est ça. Mieux manger fait mieux vivre les paysans, Denis.
Bon, et ben voilà, vous savez à peu près tout. Le répondeur 01 56 40 40 35. Rediffusion entre 5h et 6h du matin. Le podcast. Et là, tu lis mon petit loup demain à 19h54.